Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 18 septembre 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zamba Farai. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le 250e magazine que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Aujourd'hui, la ville est à nouveau en ébullition. Deux moines pratiquant d'arts martiaux sont à la recherche d'une pierre magique qu'on leur a volée. Sanchez, le patron des bars de tapioca, ferait bien d'arrêter de servir des verres d'épices aux étrangers.
Radio FMR présente... Le supplément week-end.
Émission numéro 250 avec Ultimatum, du sport, Bastich, JB, invité exceptionnel Solarus, Germain Bonnefice et Claude Godard. Ça ressemble beaucoup au cigare à 50 centimes.
Oh, yeah?
Ah ouais? Parce que c'est pas cher et que ça pue. Ça faisait hyper longtemps. Bonjour et bienvenue à tous. On a... Punaise, ça fait bizarre. C'est le supplément week-end numéro 250. Avec donc un générique complètement bizarre. Ça me fait moi-même franchement bizarre. Faut dire que la précédente émission, la plus longue que j'ai produite et réalisée, c'était indigeste et le décompte s'était arrêté à l'émission numéro 178.
Oh, petit joueur.
Ça veut dire aussi qu'on débute notre 7ème saison. Alors je tiens juste à signaler une chose, c'est que le slogan de la 7ème saison est le sang ça passe mal à la radio nous a été trouvé par Jean-David Morvan, un sympathique petit auditeur qui nous écoute à Tokyo en banlieue de Reims.
Non, en fait ce qu'il a dit c'est le sang à la radio ça passe pas mal.
Ça passe pas. Ouais, c'est vrai.
Ça pète plus.
Ça va... Bizarrement, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, j'ai pris un cahier au hasard et dessus je tombe les test de titre d'émission sur ce qu'allait devenir le supplément week-end. Alors, je rappelle qu'avant, on avait essayé une saison avec du sport et JB sous le nom de Brouillon de Culture. Donc, on est dans le créneau horaire des impromptus culturels de Radio FMR, c'est-à-dire midi 13h. Alors, rien que pour le plaisir, voici comment le supplément week-end ne s'appelle pas. Samedi pantoufle, bar de la presse et pizza spéciale. Voilà. Donc, je le cède à n'importe qui le veut. Il n'y a pas de problème, pas de droit d'auteur. Allez-y, les enfants. Allez hop, on a dit qu'aujourd'hui on ne fera pas exactement comme d'habitude et nous avions reçu des auteurs, des éditeurs, des directeurs de collection, des critiques, des organisateurs de festivals, des fanzinistes, des encyclopédistes de la BD, des voix. Mais on oublie que la bande dessinée est un art commercial et nous n'avions jamais interviewé de libraire. Claude Godard, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ben, ça va.
C'est un plaisir de t'avoir et un petit peu plus près du micro parce que c'est vrai que tu as une superbe voix de Stensor, mais
Mais je préfère la laisser loin.
Stentor.
Stentor, pas de non, si, sinon c'est Stetson, mais c'est autre chose.
Stencil. C'est le chapeau.
Stencil.
Claude a été libraire pendant plus de 15 ans, libraire spécialisé bande dessinée, d'abord pour une toute petite librairie BD qui faisait aussi, qui fait aussi kiosque à journaux. D'ailleurs, il y a une rumeur qui court comme quoi ce serait la librairie qui ferait le plus de chiffre d'affaires au mètre carré. Puis la création d'une librairie BD plus conséquente qui finira par être intégrée dans une chaîne commerciale spécialisée. Alors ta collaboration ayant pris fin, au moins on ne pourra pas nous accuser de faire de la pub. Et la première question qui me brûle les lèvres vraiment de ce côté-là, Claude, c'est comment tu es arrivé à vendre de la bande dessinée ?
Par hasard.
Non, parce que si t'allais dire c'est pour manger, tu sais, t'as le saucisson non, à droite.
C'est par hasard. Bon, je ne suis pas toulousain d'origine, donc débarquant à Toulouse en 90, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis retrouvé au comptoir du livre. Bon, je voulais travailler dans le livre, hein, donc il n'y avait pas de problème. Je restais quand même dans l'univers du livre. Et du comptoir du livre, effectivement, je suis passé vendeur dans cette petite librairie qui fait kiosque à journaux. Et depuis, bon, bah, depuis, j'ai pas arrêté de vendre de la BD.
Alors, le comptoir du livre, on va en parler tout à l'heure parce que c'est vrai que ça, que le mécanisme de la vente du livre en France est relativement peu connu du grand public, mais il est assez particulier. Il vaut vraiment le mérite qu'on en parle à soi-même. Donc, tu disais que tu es venu par le livre. Je crois d'ailleurs toi-même tu dessines.
Oui, je dessine, mais enfin, je dessine pas.
C'est pas dans la BD elle-même, quoi.
Pas dans la BD elle-même, non, non.
C'est plutôt voilà. Arty.
Oui, voilà.
Alors, justement, comment marche le mécanisme de vente de la bande dessinée ? En fait, est-ce que le livre, c'est proche des kiosques presse ?
Non, enfin, c'est compliqué à expliquer. La presse, puisque j'ai été, bon, effectivement, j'ai été marchand, enfin, de presse aussi. La presse est une espèce de monopole, que ce soit à Paris ou à Toulouse, enfin, ou à Lyon, etc. Il y a les NMPP pour la presse parisienne.
MLP, Message Régional
de Presse. Voilà, etc. Là, il n'y a pas de choix. On reçoit tous les matins de la marchandise et puis on est censé refaire le retour des invendus, etc. Donc là, c'est un univers imposé. Pour la librairie, c'est assez complexe. Alors du coup, je ne sais pas par quel bout commencer.
voilà, les bouquins...
Moi, je voulais juste poser une question à propos de ce que tu viens de dire, à propos des titres qui étaient imposés dans les kiosques,
oui.
À savoir que et ça c'est une question que je pose à l'attention des gens qui des fois cherchent des revues très spécialisées mais qui ne les trouvent pas dans n'importe quel kiosque ou dans n'importe quel magasin de la presse. Pourquoi ?
Alors d'abord, toutes les revues en fonction de leur tirage ne passent pas obligatoirement par la presse et là rejoignent plus le schéma libraire et doivent essayer de se diffuser dans des librairies spécialisées, enfin en fonction du sujet quoi. Les NMPP ne prennent que sur un quota de tirage, d'où le fait qu'on a vu, si on revient à la BD, pas mal de magazines BD s'écrouler parce qu'ils ne pouvaient pas assurer la vente de leur tirage. D'ailleurs, on retrouve le même phénomène quand même au niveau du livre, au niveau des distributeurs. Les distributeurs veulent bien distribuer à condition justement qu'il y ait du matériel. C'est-à-dire, on en arrive à des surproductions, on en reparlera sûrement plus tard, qui font que pour pouvoir avoir un bouquin distribué, ben, ça se trouve, on le tire beaucoup trop. Et bon, et puis il y arrivera ce qu'on...
Et puis c'est vrai qu'on a un record en France, c'est le nombre de titres distribués en kiosque. Je crois qu'on est le pays où il y a le plus de titres magazines. Donc je crois que le record, on le tient toujours. Mais aussi parce que c'est en partie subventionné. Donc on va partir. On va dire, un auteur a quasiment fini son album. Donc l'éditeur se prépare à le sortir. Comment ça se passe ? Tu es prévenu ? Il y a des représentants de commerce ?
C'est déjà bien que l'auteur il ait trouvé l'éditeur. Bon.
Ah oui, non, mais on zappe tout le reste. Hein.
Bon, d'accord.
Ouais, d'accord.
Donc, une fois qu'il y a le bouquin qui va être imprimé, donc il y a des dates approximatives en fonction de la finalité du livre, on nous envoie ce qu'on appelle un représentant qui correspond donc à une diffusion de la part de l'éditeur. Ce n'est pas l'éditeur lui-même qui nous envoie quelqu'un pour nous dire que le livre va sortir, c'est un diffuseur. Un diffuseur, diffuse, c'est-à-dire qu'il va aller dans toute la France, dans tous les magasins, pour diffuser le bouquin en question. Mais lui-même peut diffuser plusieurs maisons d'édition. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, une fois qu'on a pris nos commandes, c'est souvent 2 ou 3 mois avant, il est distribué. Il est par des distributeurs qui ne sont pas obligatoirement les diffuseurs. Et après, il arrive en librairie, puis on essaye de le vendre.
Et est-ce que c'est pour un éditeur, c'est compliqué ou facile de s'attacher au service d'un diffuseur? Et est-ce que les gros éditeurs ont plus de diffuseurs que les autres? Enfin, est-ce qu'un petit éditeur peut ne pas avoir de diffuseur, par exemple,
pour oui, être oui, oui. C'est-à-dire qu'au début, de toute façon, le petit éditeur, il fait sa propre pub tout seul. Il démarche par internet, il démarche en envoyant des mailings à tous les libraires, et puis il est lui-même son diffuseur et voire même son distributeur. Puisque, comme on disait tout à l'heure, il y a des quotas, c'est-à-dire qu'en deçà d'un certain nombre de tirages ou d'un certain nombre de volumes, le diffuseur ne diffusera pas, parce que s'il n'y a qu'un bouquin à diffuser, ça ne l'intéresse pas, et le distributeur ne distribuera pas s'il n'y en a que 2000 ou 3000 à distribuer.
Est-ce que des fois il y a eu des éditeurs qui sont retrouvés en difficulté à cause de leurs distributeurs? Il y a eu par exemple, si je me souviens bien, les éditions Betty qui s'étaient retrouvées coincées à cause de Casterman. Est-ce que c'est une les libraires ont des fois des relations orageuses avec des distributeurs?
Avec le distributeur non, parce que lui n'est que le... Il y a tellement de roues aux carrosses que je ne sais pas le nombre.
C'est le prestataire de transport.
Oui, voilà. En fait, le distributeur ne fait qu'acheminer les livres. C'est plutôt avec les diffuseurs, oui, puisque on peut supposer que les représentants, enfin, surtout pour les gros, les majors, comme on dit les gros, ils ont des objectifs, que nous, on est peut-être susceptibles de vouloir que 10 BD parce qu'on imagine qu'on n'en vendra que 10 et eux, ils imaginent qu'ils vont en vendre 100. C'est assez facile d'avoir des mots dans ces cas-là. Ça ressemble plutôt au souk, quoi.
À ce point,
oui.
Est-ce qu'ils font comme les représentants médicaux qui débarquent chez les médecins au moment des grandes grippes, ou est-ce qu'au moins ils ont la politesse de passer à un moment où il n'y a pas trop de monde?
On essaye en fait de faire en sorte qu'il y ait quand même des rendez-vous, qu'on soit à peu près disponible pour les recevoir.
Donc une fois que, en fait, c'est à peu près combien de temps en avance que se décide la quantité de livres que vous allez prendre? On va prendre le Black Sad, par exemple, qui est sorti cette semaine.
Le Black Sad, je pense que ça, on va dire 3 mois.
3 mois à l'avance, et en fait, vous avez au moins quelques dessins, un résumé?
On a la couverture, un petit texte qui explique qui fait quoi et qui est qui, et puis 3-4 pages, souvent les meilleures.
Les bonnes feuilles, donc.
Oui, voilà.
Et toi, en tant que responsable d'une librairie spécialisée, est-ce que tu t'es obligé à lire un certain nombre de BD? Quel était le rythme de tes lectures?
Alors, s'obliger, quoique ces derniers temps, ça a commencé à ressembler plus à ça, parce que vu la production, il y avait quand même beaucoup de choses à lire. Mais sinon, au début, c'était un plaisir, puisqu'on pouvait lire des BD, les partager avec les clients, puisque quand même, et se permettre de se dire, tiens, ça j'ai aimé ça, je peux vous conseiller ça, etc. Mais c'est vrai que maintenant, avec la surproduction, là je sais plus où on en est, je crois que c'est plus de 4500 titres dans l'année.
3500 nouveautés à l'année.
Si on compte, ça fait plus d'une dizaine à lire par jour, et quelque part, c'est plus possible.
Est-ce que tu veux dire, dans ce cas-là, que justement le rôle de conseiller clientèle d'un libraire bande dessinée est en train de passer à la trappe à cause de la surproduction elle-même?
Non, parce que après c'est à nous-mêmes de faire nos choix de lecture, et puis après, comme on dit, basta, c'est-à-dire qu'on va lire ce qu'on imagine devoir nous plaire pour pouvoir le conseiller, et puis on donne une identité à la librairie comme ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si on s'arrête au fait de devoir lire par devoir, entre guillemets, toute la parution, ça devient impossible.
Et d'un autre côté, en fait, vous vendez aussi à des institutionnels, les bibliothèques publiques et bibliothèques privées et tout ça. Ça se passe comment dans ce cas-là? C'est-à-dire, ils viennent avec une liste qui est déjà faite, ou vous-même, vous essayez de les conseiller? Et dans ce cas-là, est-ce que des fois, vous regrettez de ne pas pouvoir tout lire? Je te vous vois, mais c'est dans le cadre général. J'essaie de te mettre à la place.
Non, mais dans l'ensemble, c'est à peu près les deux, quoi. C'est-à-dire que les bibliothécaires, enfin du moins les documentalistes, je pense que ça s'appelle comme ça, viennent avec l'espoir qu'on puisse leur conseiller des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est c'est notre cas, mais enfin, de toute façon, nous, en tant que libraires, on est amené justement à lire plus facilement ce qui sort de l'ordinaire plutôt que la suite des séries, que ce qui semble plus vendable tranquillement sans avoir besoin de le lire. Quoi.
Là où c'est, je vais dire, intéressant de ce côté-là, c'est peut-être justement les relationnels avec les bibliothèques publiques, puisque elles ont une base d'information qui s'appelle la documentation française. Il y a aussi de la littérature professionnelle pour vous les libraires, ça sera entre autres Livre Hebdo et des sites d'information comme Actua BD, qui est partenaire à l'émission, désolé. Est-ce que des fois il n'y a pas un surplus d'informations, c'est-à-dire que justement cela se rajoute à trop de choses à lire, à découvrir et qui fait qu'on peut se paumer?
Non, je pense qu'après le, enfin là, je vais répondre bêtement, mais tout est un.
C'est pas bête, hein.
Non, mais tout est une question de choix. Ça veut dire que pour les documentalistes, bon, ben, vu la production, elles peuvent pas non plus, vu leur budget, tout acheter. Donc, ça, on en arrive à une question de choix. Il faut faire le choix par rapport à notre clientèle, enfin, à leur clientèle, enfin, les gens qui viennent lire. Et c'est vrai que, bon, les plus grosses peuvent se permettre de ressembler à ce qu'on pourrait appeler la Bibliothèque de France, c'est-à-dire à avoir à peu près tout, puisqu'ils ont les budgets correspondants. Mais sinon, après, c'est une question de choix, quoi.
Alors, il y a eu une discussion qui a un thème récurrent depuis 2 ans du côté du syndicat des éditeurs, comme quoi il faut taxer les librairies pour les prêts, parce qu'elles empêchent les ventes de se faire.
Mais c'est fait, ça.
Mais de taxer pour chaque prêt.
Mais c'est fait, ça.
C'est fait.
C'est fait. C'est-à-dire que le libraire, quand il vend aux collectivités, outre la remise collectivité qui est imposée, on reverse à la SOFIA, qui est une espèce de SACEM, etc., pour les auteurs, les éditeurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus pour les éditeurs que les auteurs. Et on reverse, on va dire, 6% de la valeur du livre.
D'accord. Mais parce qu'il était question de faire payer à l'utilisateur final.
Eh ben, je crois qu'il paye aussi une partie, oui.
Vas-y Thomas, pardon. Je pédale dans la semoule.
Non. Comment ça marche pour les venues des auteurs en dédicace? Est-ce que c'est vous en général qui les sollicitez pour qu'ils viennent, ou alors est-ce que c'est un plan, par exemple, ils doivent être à Marseille, à Bordeaux, tiens, ce serait cool qu'ils passent à Toulouse, donc le distributeur ou l'éditeur vous contacte?
Bah, les deux.
D'accord.
Les deux. Enfin bon, il y a ce qu'on appelle des tournées de promotion, et dans ces cas-là, si on a eu l'opportunité, entre guillemets, d'en parler un peu à l'attaché de presse, ben on pense à nous, ou l'auteur nous connaît déjà et il pense à nous, et après c'est intégré dans une tournée. Sinon, ben on appelle directement l'auteur et puis on voit avec lui, quoi.
Thomas me bouscule complètement la
bah oui, prod. Je sais, mais tu m'as demandé de d'intervenir. Alors
du coup, on est passé de 2 salons de bande dessinée sur la région, Colomiers et Oz, avec un mépris superbe qu'avait la mairie de Toulouse, pour qui, non, mais la bande dessinée n'est pas quelque chose de suffisamment bien pour que la ville organise quelque chose, à plus d'une dizaine de salons, de festivals, de fêtes de la BD dans la région. Est-ce que, par là, il n'y a pas un risque d'overdose? Ou est-ce que finalement chacun a sa place?
Bon, je crois qu'il y a quand même un risque d'overdose. De toute façon, les auteurs eux-mêmes disent qu'il y a plus d'un salon par week-end. Enfin, s'ils les faisaient tous, ils passeraient leur temps en salon et ils feraient plus de BD, quoi.
Ouais, j'avais fait le compte en 96, 97, on avait déjà 2 salons par week-end sur toute la France. Donc,
bon, quelque part, ces manifestations, si elles sont bien menées, sont intéressantes. Ça permet de redévelopper la BD, de la montrer. Bon, il n'y a pas de souci sur le problème. Bon, ce qu'il y a, c'est effectivement, au même titre que la surproduction, c'est la surenchère de salons qui sont présents, oui.
Et toi, justement, en tant que libraire, tu interviens comment dans ces salons?
Alors, c'est variable. C'est variable.
C'est intéressant.
Parce, d'abord, moi, j'ai jamais été demandé à faire un salon. Bon, donc, en fait, ce sont les salons, les organisations des salons qui sont venues me voir pour voir si je voulais être partenaire. Enfin, c'est plus ou moins l'expression. Et bon, en fonction de ça, je dis oui, et puis voilà, quoi.
C'est aller chercher les auteurs, les convaincre, vendre uniquement sur place.
C'est un mélange de tout. Bon, il y a des salons qui nous imposent une liste d'auteurs et là on fait juste la vente des ouvrages sur place. D'autres, justement plus proches du partenariat, me demandent aussi de me servir de mon carnet d'adresses pour faire venir quelques auteurs. Mais enfin bon, moi je reste convaincu que plus l'entrée est gratuite, mieux c'est. Et on vend les livres, les albums des auteurs qui sont présents, et puis voilà quoi.
Pour en revenir donc au cadre général, c'est vrai qu'on parlait vraiment de surproduction. On a un volume de bandes dessinées qui nous fait peur, rien que d'y penser des fois. Même ceux qui sont, je dois t'avouer, hein, Claude, même ceux qui sont sélectionnés pour la plupart des prix pour lesquels je vote à l'avant-dernier ou au dernier tour, j'ai pas forcément eu le temps de les lire avant. Donc on en est des fois à vraiment une surproduction qui est énorme, une sectorisation assez lourde. Il y a les bandes dessinées arty, les bandes dessinées jeunesse, il y a les bandes dessinées qui sont carrément formatées supermarché. Est-ce que c'est plus une chance pour les éditeurs ou pour les libraires, d'après toi?
T'as donné la réponse en fait sans le faire exprès. C'est plus une chance pour l'éditeur que pour le libraire, puisqu'il y en a qui sont même pour les supermarchés.
Ah d'accord. Voilà. Alors on va faire un petit tour des sorties qui a eu lieu au cours de cette semaine, de ce mois-ci, qui est un petit peu entre guillemets représentatif, hein, je veux dire, de l'ensemble des bouquins que l'on chronique. Je vais commencer avec juste un livre qu'on ne veut pas chroniquer, on va juste le signaler. C'est Skutten, qui en fait adapte un roman de Jean-Jacques Abeille qui s'appelle, c'est une nouvelle qui s'appelle Les Mère perdue, et c'est sorti normalement chez Attila. Donc c'est pas une bande dessinée, hein, c'est un roman un peu vernien qui a été adapté graphiquement par Skutten, qui a fait l'intérieur des couves et tout ça, et qui réalise aussi les Cités perdues. Est-ce que ça, tu penses que ça, parce que entre nous, hein, c'est du texte. Est-ce que ça, tu penses que ça peut avoir de la place dans une librairie spécialisée bande dessinée, ou il vaut mieux que ça se retrouve à la limite plus dans les beaux-arts?
Dans les deux. Parce que, Skutten est un auteur BD à part entière, entre guillemets. Il a une grande histoire avec la bande dessinée. Donc,
et il a un grand prix à Angoulême.
Oui. Donc, de fait, il va bien chez nous, mais en même temps, effectivement, dans les livres qui vendent dans les librairies qui vendent de l'illustration, du livre illustré, oui.
On va continuer avec une autre sortie. Bah tiens, c'est le 50e de Naruto, sorti chez Kana, de Masashi Kishimoto. 50 Naruto. Alors comment tu fais la logistique? Parce que là on se dit, attends, des séries au long cours, Conan, je crois qu'on en est au 65e ou 66e tome.
Il y a One Piece, je sais pas combien aussi.
Là aussi, oui. Ouais.
Qui sont soutenus lourdement en plus après par leur diffusion en dessin animé. Donc il y a des gens qui l'ont découvert depuis les tout débuts. Et puis il y en a qui arrivent par l'apparition du dessin animé, après avoir eu les Ouidir et tout le reste. Comment on fait dans ce cas-là? Est-ce que on garde la série entière dans les étagères, on en garde dans les stocks, ou carrément on fait des trous?
Alors, moi, dans mon esprit de libraire, dans mon esprit à moi, je préférerais tout garder, parce que de toute façon, on revend autant du dernier que du tome 1, peut-être pas autant, mais on en vend régulièrement du 1, du 2, etc. Donc, dans la liberté que peuvent avoir les gens pour l'achat, mieux vaut avoir la série d'une manière totale, quoi. Et effectivement, ça fait du stock.
Ça fait du stock, donc ça fait un chiffre d'affaires quand même qui est coincé. Est-ce que le fait justement de garder, d'immobiliser autant d'argent, ça aide à avoir des ventes complémentaires? Parce que les gens viennent dans telle librairie plutôt que dans telle autre parce qu'il y a tout.
L'idée c'est ça, oui. Mais le problème c'est que les comptables ne comprennent pas que la librairie, mais enfin, c'est pas inhérent à la BD, hein, c'est inhérent à tous les libraires.
Tout secteur d'activité.
Le stock fait partie de l'âme d'une librairie. Et s'il n'y a pas de stock, la librairie n'a plus d'âme. Et je vois, moi, dans les rayons, les gens, ils sont vachement contents d'aller fouiller dans les tiroirs, essayer de trouver le trésor qu'ils recherchent et de le trouver. C'est surtout ça qui est intéressant. Et par les temps qui courent, c'est en voie de disparition, quoi.
Oui, parce que si le gars qui veut le Naruto tome 18, et c'est justement le 18 que vous avez pas, quel est le pourcentage de gens qui reviennent parce que vous lui dites « Ah, mais on peut le commander, vous revenez après ». Est-ce qu'ils reviennent après?
Pour le manga, je sais pas trop, mais c'est quand même lié à ce qu'on pourrait appeler une impulsion, c'est immédiate. Mmh. Si on l'a pas, on l'a pas, ils iront le chercher ailleurs, et puis ils retourneront.
Je veux ma drogue.
Voilà. Et ils retourneront au magasin où ils l'ont trouvé jusqu'à ce que ce magasin n'ait plus non plus le truc pour retourner, etc.
D'accord.
On va continuer d'ailleurs dans les sorties. Ah bah tiens, JB est arrivé avec. Ça tombe bien parce que c'est. On parle de. Là, on... sur le Spirou, là je parle plus d'autre chose. C'est le Spirou de Fabrice Parme et Lewis Trondheim, Panique en Atlantique. C'est-à-dire que, justement, le fait que Spirou est un cas à part, c'est-à-dire que c'est un personnage qui appartient plus à un éditeur qu'à un auteur. C'est un cas complètement à part dans la bande dessinée franco-belge. Est-ce que tu penses justement que cette politique de spin-off, de faire des séries à côté de la série principale, ça a beaucoup aidé à maintenir le personnage, ou au contraire, ça rend complètement flou auprès du public?
Non, je pense que ça l'a aidé. En fait, la BD est quand même quelque chose qui a une durée de vie très limitée. C'est-à-dire qu'une série, une fois qu'elle est finie, elle est finie. Et le fait de pouvoir faire des spin-offs comme ça permet de faire vivre et toujours continuer à faire vivre la série. Et puis pour Spirou,
13 est fini alors.
Oui, les ventes ont chuté d'un coup parce qu'il n'y a pas de.
Et
Largo Winch continue.
D'accord. Et le fait qu'il y ait 13 à côté en spin-off des personnages, ça n'a absolument pas aidé.
Si, ça relance un peu pour les gens qui découvrent par justement l'histoire à part, ça relance un peu la série, mais bon.
Ça n'a pas aidé. Mais attire le pied, JB. Oh. Vous écoutez Radio FMR et probablement Actu ABD. Voilà. Un animateur qui arrive en plein milieu et qui déplace le saucisson. Merci pour passer les cahuètes. Consommez avec modération, bien sûr.
Ouais, j'étais pas là pour ça.
parce que, en fait, tiens, Watchmen.
Comment trouver une rebondir sur une
question? Mais c'est intéressant, c'est un cas qui est complètement à part. Ça a été édité plusieurs fois, ça a été édité la première fois en France en 88, si je me souviens bien, par Zelda, puis ensuite réédité par Delcourt, puis ensuite ça a été repris en main par Panini, puis ensuite il y a eu l'arrivée du film. Est-ce que c'est la même tranche d'âge constante sur ce genre de séries qui reviennent dans l'actualité, ou est-ce que finalement c'est juste un public qui vieillit et qui soit renouvelle, soit découvre sur le tard? C'est un peu compliqué peut-être.
Oui, parce que la BD avec le film, ça donne plusieurs histoires différentes, donc on retombe sur la même tranche d'âge et sur des gens qui l'ont raté, oui. En fait, une librairie de BD, c'est quand même, c'est très attaché à, enfin c'est très attaché, non c'est pas attaché, mais ça, sans le faire esprit, la vocation d'amener chez elle des gens qui ont un pouvoir d'achat, donc la tranche d'âge se limite à ça, quoi.
Nous qui sommes pas libraires, on trouverait assez rigolo de savoir, c'est que, par exemple, il y a 15 ans, t'as 15 ans de librairie derrière toi, il y a 15 ans, le manga n'était pas comme aujourd'hui, démocratisé et tout. Je pense que les gens qui achetaient du manga il y a 15 ans, enfin si ça s'achetait il y a 15 ans, c'est pas du tout la même faune qu'aujourd'hui. Est-ce que toi, t'as vu une évolution? Est-ce que quand les gens que tu vois arriver dans ta librairie aujourd'hui, est-ce que t'as vu qu'il y avait une évolution? Est-ce que tu te marres des fois derrière ton comptoir et dis, ça a bien changé, le public de, je sais pas, de Largo Winch ou...
Non, parce que par le biais, comme on disait, les dessins animés et des choses comme ça, comme Naruto, One Piece, ça relance les séries avec la même clientèle de l'époque qui était, c'était AB Productions avec Dorothée à l'époque quand le manga a commencé à exploser, avec Dragon Ball. Et non, les jeunes, les ados sont toujours les mêmes, ça paraît bête à dire comme ça, et bon, c'est vrai qu'après ils vieillissent, mais... comment peut-on dire, l'amateur de manga est resté amateur de manga quand même.
Ouais, il n'y a pas eu ce passage un petit peu, j'allais dire entre guillemets, à l'âge adulte de l'ado qui achète du manga parce que il regarde les séries, parce que le manga maintenant s'est démocratisé, et qui quand il arrive à un certain âge, je veux dire quand il rentre un petit peu dans l'âge adulte,
se dit
tiens, je vais passer à un autre style de bande dessinée, je vais m'intéresser à la franco-belge, je m'intéressais aux comics américains, enfin à un autre style de BD.
Un peu, mais ils sont
restent amoureux du style BD, mais ils passent un petit peu à autre chose.
La transition tangentée par les éditeurs n'a pas eu lieu finalement.
En fait, dans ce sens-là, non. C'est-à-dire que le manga reste fidèle au manga. Bon, c'est vrai qu'il a quelques excursions sur, il disait, les comics et les BD franco-belges. Mais il faut reconnaître quand même que dans le manga, tous les sujets sont travaillés. Donc en fait, étant donné qu'il y a déjà tout en soi, ben il n'y a plus besoin d'aller chercher ailleurs puisqu'il y a tout. Ça paraît bête à dire comme ça. À l'inverse, les lecteurs BD franco-belges, eux, bon, ben, surtout grâce à Taniguchi, on se retrouve à lire quand même du manga et découvrir qu'il y a autre chose que ben Dragon Ball, One Piece ou Naruto, quoi.
Alors que les métalleux en t-shirt noir, ils restent fans de Wolverine et...
Ouais, moi j'aime bien.
Midi 30 sur la poubelle des radios, vous écoutez FMR sur le supplément week-end numéro 250 et nous avons donc Claude Godard qui est libraire de bande dessinée, entre deux j'espère, et comme nous ne sommes pas des chiens, nous allons poser une pause musicale, ça permettra d'ouvrir les bouteilles. Digimank, hey, can you relate, remixé par Luc Vibert.
Comment avoir la même voix que Philippe Bouvard? C'est facile. On reprend le micro, la bouche pleine.
Didi Mink, hey hey, can you relate dans le supplément week-end? Avec, bah oui, toute l'équipe, hein, du coup.
Oui, et Claude.
Et Claude, donc, qui est libraire de bande dessinée, et sur lequel on avait plein de questions et tout ça, parce que on n'y connaît rien, nous, tu sais, tu penses. C'est vrai que on a commencé à parler des mangas qui ont littéralement envahi. Les premières publications de mangas, c'était 1990, avec Glénat, avec la prépublication d'Akira, en collaboration avec Libération à l'époque. Puis ensuite, en 92, l'arrivée de la librairie Tonkam, qui a commencé à éditer de son côté de la manga de fesses pour garçons. Hein, on va pas dire ça autrement. Il y a eu le grand décollage des mangas. Il y a eu la remontée des éditeurs franco-belges après la crise, puisque entre 85 et 95, ça a été la bande dessinée était quand même dans un sacré creux. Il y a eu la fin des magazines de prépublication. Il y a eu l'explosion des sorties, la raréfaction des magazines critiques. Claude, oui. D'après toi, qu'est-ce que tu vois comme étant le prochain grand choc des libraires spécialisés en bande dessinée?
La BD numérique.
Non, on souffle pas.
Non. Oui, non, l'idée n'est pas mauvaise, puisque j'ai mes gamins qui lisent les mangas sur Internet. Mais derrière, ils me demandent quand même d'acheter les mangas, et donc ils ont quand même encore besoin du support papier, quoi. Mais bon, et éventuellement la BD numérique, mais je vois pas trop, enfin c'est peut-être parce que je suis vieux jeu, je vois pas trop l'intérêt de lire une BD sous cette forme-là, quoi.
Et tu lis toi-même, je sais pas, des blogs comme celui de Boulet ou...
Non, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je trouve jamais la deuxième page après la première page de l'écran, quoi. Il n'arrive pas à s'ouvrir.
Oui, Boulet, il faudrait qu'on y pense, hein, à ton interface, elle est un peu difficile. Est-ce que, à l'époque d'Internet, puisque vraiment de ce côté-là, la place a été prise, on voit qu'on a des distributeurs qui sont entre deux. Ils hésitent entre le magasin physique et le magasin informatique, enfin le magasin Internet, puisque on a la Fnac, il y a Virgin, ils ont tous les deux, ils sont cette double vitrine. Est-ce que justement, c'est pas, y a des libraires qui ont cette tentation-là. Est-ce que ça risque pas d'être une confusion des genres?
Là, je me rends pas compte parce que bon, pour un libraire, c'est pas évident de vendre des livres par le biais d'un. Enfin, si vendre des livres par correspondance, oui, ça c'est facile.
Il y a eu BDNet, hein.
Oui, non, mais ça. Je vois que le groupe pour lequel j'ai bossé a ouvert aussi une ligne de vente par correspondance, on va dire ça comme ça. Je sais pas si la mayonnaise a pris, mais il va de soi qu'effectivement la vente sur Internet progresse, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, et quelque part au même délai. Enfin, moi j'en ai fait ma propre expérience pour un même délai de livraison en magasin et chez soi. On l'a peut-être parfois plus vite par Internet, même si on paye des frais de port, que par le fait du magasin, quoi.
Le fait qu'il y ait la loi Lang qui permet d'avoir un prix stable dans toute la France, théoriquement, des livres, qu'on a des sites web qui distribuent la bande dessinée francophone, mais basée en dehors de France. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de ce côté-là?
Là, j'ai pas fait attention. Ça dépend à quel prix ils les vendent. Bon, disons qu'il y a des groupes qui vendent quand même du livre de la BD d'occasion en bon état, entre guillemets, qui fait que l'un dans l'autre, on paye le livre plus les frais de port, on l'a légèrement moins cher que le livre en magasin. C'est sûr que c'est tentant et intéressant, mais ça touche... Enfin, je pense que les grandes villes... Ceux qui habitent en ville aiment bien quand même encore aller en magasin. C'est plutôt ceux qui sont un peu éloignés qui se servent du net, si jamais ils ont cette habitude.
Ou effectivement, comme tu dis, pour l'éloignement par rapport aux libraires, ou aussi par rapport à trouver de vieilles bandes dessinées que tu as du mal à toi, qui ne sont plus éditées. Effectivement, là, le net peut être intéressant, quoi.
Oui, de ce côté-là, oui, pour ce genre de recherche. Et puis, bon, de créer une fausse proximité, puisque, bon... Enfin, de recréer une proximité de magasin, ouais.
En revanche, moi j'avais une question. Est-ce que, bon, entre les mangas, les comics et la BD franco-belge, est-ce qu'en général le public reste très segmenté, en majorité des cas, dans leur domaine? Ou est-ce qu'au final, c'est devenu quand même assez hétéroclite entre les trois.
En fait, on en parlait avant que tu arrives.
Ah, d'accord.
Non, mais en fait, bon, d'accord, bah, je vais quand même répondre avec une réponse un peu différente. C'est la volonté du libraire, à savoir s'il veut une clientèle axée sur tel ou tel sujet, bon, on va dire des, soit les indépendants, les trucs d'atmosphère, le polar. Donc, il mettra plus en avant ça. Au risque de voir les autres ne pas être vendus, et dans ces cas-là, il mettra plus l'accent sur ce qu'il vend, ou bien essayer d'être une librairie tout publique, et dans ces cas-là, effectivement, il y aura de tout.
Il y aura de tout, mais non, c'est, alors c'est peut-être pas la... C'est, je parlais par rapport au public lui-même. Est-ce que, en général, ceux qui lisent du manga lisent essentiellement du manga?
Je crois qu'il va réécouter le podcast.
Ouais. Oui, enfin, globalement, ben, on a chacun, on aime bien... Même toi, quand on aime quelque chose, ben, on va vers ce que l'on aime. Donc, effectivement, le public manga reste manga. Et c'est vrai qu'on l'avait dit. Le public comics est comics. Et le franco-belge est franco-belge. Et de temps en temps, il y a un peu de mélange. Ouais.
Amis auditeurs, vous avez compris qu'on a tous nos cartes de fidélité dans toutes les BD librairies de la région. On en parlait, c'est vrai que indirectement tu avais commencé à aborder le sujet, mais les éditeurs indépendants, est-ce que actuellement ils arrivent à s'en sortir malgré la surproduction et les changements, je veux dire, dans le secteur?
Ben, je vais être un peu méchant avec eux, mais ils ont quand même contribué un peu à la surproduction. Au début, l'indépendant était quelque chose de secret, j'allais dire, bon, personne n'en achetait, sauf quelques rares personnes. Il y a eu quelques explosions qui ont fait que, bon, ben, certaines maisons d'édition indépendantes ont un peu explosé. Et de fait, ben, ils sont rentrés dans le schéma classique, comment pourrait-on dire, du mercantilisme. Non, ça c'est méchant. Enfin, du commerce. C'est-à-dire que, ben, ils ont découvert que l'argent c'était intéressant à avoir et donc, ils ont produit et surproduit, quoi.
Toute ressemblance avec une maison d'édition qui porte le nom d'une structure juridique, ça serait comme pure coïncidence.
Qui commence par un grand A.
À peu près. Ouais.
Non, non, L apostrophe.
On parlait d'Internet, justement, aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les fanzines?
Bah, c'est... Oui. Bah, oui, oui, parce que...
Les fanzines existent toujours et ça continue à tourner?
Bah, les fanzines, les pauvres, oui, ils existent toujours. Bon, on les voit de moins en moins, mais ils existent quand même. Là, pour le coup, il faut voir les salons. C'est comme quoi le monde est très lié. Enfin, ce monde de la BD est quand même un microcosme. Dans les salons, ben, dans chaque salon, on découvre un, deux, trois fanzines qui sont là et qui essayent de vendre leurs produits. Oui, le fanzina existe toujours et je pense que ça fait partie d'une bonne école quand même. Il est bon le saucisson?
Pas mal. Moi j'ai une question aussi.
Vas-y. Non mais t'as pas une question, tu la poses et puis voilà. Oui. Tu seras sans doute une question. Ouais.
On a vu notamment dans certaines librairies de Toulouse qu'il y avait une explosion des produits dérivés dans les rayons. Est-ce que c'est une tendance qui... En fait, c'est ce qui se cache derrière. En fait, c'est juste que vous êtes aperçu qu'il y avait vraiment un public derrière, ou c'est parce que les autres font, alors on fait pareil.
Non, mais les produits dérivés, il y a toujours eu. Hein, là, depuis, on va dire 20 ans que je suis dedans, j'ai toujours vu des produits dérivés. Bon, maintenant, il va de soi que le produit dérivé classique que j'ai connu il y a 20 ans atteint des sommes astronomiques au niveau de l'achat, et ça ne va pas. Plus pour le collectionneur, c'est trop cher.
Ça ne correspond plus à une réalité économique.
Voilà, ça ne correspond plus à une réalité économique. Et effectivement, il y a plein de petits, pas gadgets, mais je pense surtout pour le comics et le manga, des produits peu chers et attirants. Bon, ben, il va de soi que on les vend, oui. C'est naturel. Je pense pas qu'on... Étant donné qu'on s'aperçoit que par la surproduction, qu'il y a peut-être un phénomène de crise aussi, et que les libraires sont quand même avant tout des commerçants, ils ont besoin de gagner d'argent. Donc autant essayer de vendre également ce qu'ils vendent.
D'accord.
Voilà.
Alors, puisque aujourd'hui c'est une émission qui est absolument pas comme les autres, figurez-vous que JB a préparé une chronique BD. Puisqu'il s'agit de Black Sad, il l'a écrite, il n'y a pas de souci, voilà, de Diaz Canales et Guarnino. L'Enfer, le silence, tome 4 est sorti cette semaine chez Dargo.
Oui.
Non mais il a dit qu'il... non mais.
Non mais tu m'avais dit que tu l'avais écrite.
Oui.
Mais
si, il a écrit regarde la feuille là.
Voilà.
Hop. Je vais te faire comme les autres. Je vais te lire la quatrième de couve.
Non, lis pas les quatrièmes de couve. Tout le monde peut le faire.
C'est ce que t'as fait la semaine dernière.
Non. C'est pas du... moi.
Oui, c'était
moi. Je le fais jamais. Je le fais jamais.
C'était vous deux. Oui, effectivement. Donc la grosse nouveauté de la semaine, c'est le Black Sad de Canel et Ségouard-Lido. C'est le tome 4, l'enfer, le silence. Et je me le suis tapé hier soir, sortie officielle hier, et c'était un pur chef-d'œuvre. Donc l'histoire est toute simple, toujours le bon vieux détective Black Sad, toujours des années 50, ça se passe en Louisiane, c'est, ça pue le jazz.
Et Claude ne l'a pas lu, voilà.
Et c'est du pur bonheur de bout en bout.
Alors on rappelle peut-être ce principe de Black Sad, c'est de la bande dessinée anthropomorphique, c'est-à-dire ces animaux qui ont des caractères humains, et c'est un polar hyper noir.
Ouais, vraiment.
Le terme est faible. Dans le deuxième, il était face à des tenants d'une Amérique blanche. Dans le troisième, c'était un complot nucléaire.
Oui.
Mais ne spoil pas tout, enfin.
Non, ça c'était les trois premiers, donc ça va. Le quatrième, mais tout simplement.
Bah non, moi j'ai pas lu.
Eh ben, je te dépasserai avec grand plaisir. C'est parmi vraiment les petits chefs-d'œuvre qui sort de manière très sporadique. Je crois que le premier il est sorti il y a une dizaine d'années et le précédent c'est sorti je crois il y a 4 ans, le tome 3.
Alors donc, une question intéressante dans ce cas-là, Claude, comment fait-on pour vendre une série qui quand même bon, elle est superbe, mais comment on fait pour vendre une série quand elle sort tous les 4 ans? Et je parle pas forcément du dernier Ludos qui sort tous les 20 ans.
Non mais si elle se vend elle-même hein, le bouche à oreille, les copains, les copines, tout le monde en parle et c'est une série récurrente. Hein. Effectivement, ça fait partie des nouvelles séries qui continuent à se vendre et puis la construction de l'album à chaque fois c'est une histoire par album, hein, ça permet.
C'est une histoire complète, oui.
Ouais, ça permet à la série de continuer à vivre, sachant qu'il y en aura toujours un, peut-être, à venir, même si ça met 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, c'est une série vivace. Hein.
Série vivace, donc ça veut dire que tu as commandé 3 palettes,
4 ouais, 5.
5, d'accord. Il déconne à peine en plus.
Non, mais c'est bien parce que je vous vois tous trépigner d'impatience à l'idée de découvrir cet album. Juste, je vais vous refroidir parce que c'est. Il faut juste savoir que c'est Thomas Langman qui détient les droits de l'adaptation cinéma et ce sera donc un film en 3D réalisé par Alexandre Aja qui a fait la Colline à des yeux et donc le Piranha 3D.
Et Piranha, ouais.
Voilà. Donc c'est pas trop le.
Et
le...
haute tension, mais.
Oui.
On peut revenir dans ce cas-là à la note artistique.
Non, le. Si vous voulez, on peut faire un 10 sur 10 pour le nouveau Black Sad ou tout simplement notre cher Black Sad. Il doit mener une enquête pour retrouver un jazzman qui a disparu en pleine Louisiane.
Oh, ils sont nombreux comme ça.
Il y a une vague de fond là.
Ça sent bon le Angel Art et compagnie hein, pour ceux qui connaissent.
Il y a du vaudou.
Il y a du vaudou.
Ah, obligé.
Voilà. Avec des aquarelles, mais à tomber. D'ailleurs, je rappelle pour les chers auditeurs que il y aura au mois de novembre sortira un bouquin sur les aquarelles tirées de ce tome-là. Et ils seront réédités.
Ils commencent déjà à vendre le portfolio d'ailleurs. Hein. On a reçu le mail.
Et seront réédités les aquarelles des tomes 1, 2 et 3 aussi dans la foulée en novembre. Et
sachant aussi qu'il y a la collection des Comics Bureau, il y a un qui est consacré à Guardido, il me semble aussi. C'est des carnets de des sketchbooks, en fait, ce qu'on appelle les dessinateurs.
Tu peux donner les références du livre, hein, pour une fois, c'est pas moi qui vais le faire.
Ah, mais bien sûr, c'est un d'argot.
Scénarisé et dessiné par, je cherche dans scénario la troisième de
par Juan Diaz Canales et dessin à couleur par Juanro Guarnido à tomber. Je vous le conseille vivement.
À propos de Black Sad, je voudrais poser une question à Claude justement, parce que bon, en me baladant un petit peu en ville, j'avais remarqué que dans une grande enseigne de vendeurs de culture généraliste, eh bien, il y avait une pleine vitrine consacrée à Black Sad, avec bien entendu les autres, les précédents opus. Par rapport à ta librairie, c'est-à-dire par rapport aux petites librairies un petit peu plus spécialisées, quand un best-seller comme Black Sad sort, Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné, vous, en comparaison des grosses machines de guerre qui vont vraiment pousser le bouchon un petit peu loin et qui, eux, vont faire de la vente en masse? C'est-à-dire que, ok, de toute façon, on va y aller à fond.
Non, non, c'est toujours un état de fait, donc ça ne nous pose pas trop de soucis. Et de notre côté, on a quand même l'avantage d'avoir une bonne clientèle, j'allais dire fidèle. Et au contraire, la vitrine justement des autres enseignes nous permet d'être notre vitrine, entre guillemets, et les gens le voyant là viennent chez nous pour l'acheter, donc au moins ça sert à quelque chose.
Moi, ce que je me souviens, c'est quand il y avait les bouquins qui étaient annoncés pour une certaine date, un samedi en général, comme les livraisons se faisaient le jeudi, il y avait un moratoire, il ne fallait pas qu'ils sortent avant cette date, sauf certains magasins qui le sortaient, et j'ai vu des constats d'huissier. Est-ce que, fait par les magasins concurrents, comme quoi un tel a sorti trop tôt, est-ce que ça a eu des conséquences au niveau juridique, et est-ce que ça existe encore, ce genre de pratique?
Alors,
de le sortir avant la date officielle.
Il y a là, c'est rentré un peu dans les coulisses. Bon, il y a eu aucune conséquence, j'allais dire juridique. Il y a juste eu des constats histoire de pouvoir aller auprès de la maison d'édition et des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître une chose, c'est que on a un distributeur qui s'appelle Hachette, qui livre à tout le monde au même moment les livres, ce qui ne génère absolument aucun problème. Alors que d'autres maisons, par exemple pour Black Sad, eux livrent 3 jours avant en demandant aux gens de le garder pendant 3 jours. Bon, pour ceux qui ont de la place, justement, comme les grosses enseignes qui ont des hangars et des machins, c'est parfait. Mais une toute petite librairie, qu'est-ce qu'il fait avec ses cartons?
On fait des meubles.
Elle les a au milieu.
Il est obligé quand même de reconnaître la marchandise.
Bon, les constats, ce que j'ai vu, c'était pas dans les petites librairies. Hein.
Oui, mais après, c'est des guerres d'enseignes.
Honnêtement, quel que soit le domaine, bon, effectivement, les librairies, tu le dis, mais je vois dans les autres types, je vois la vidéo ou autre, ça a toujours été ça et ça sera toujours ça. Les produits arriveront toujours obligatoirement un peu plus tôt pour qu'on puisse les avoir à temps pour le jour de la sortie. Mais t'as toujours un petit roublard qui se dit, bon, mais tiens, mais moi je vais le sortir avant. C'est comme ça.
Il est 11h et 12h et 54 minutes sur l'horloge atomique de la poubelle des radios et on va passer à littéralement autre chose. Et Claude, tu vas rester peut-être avec nous, je suppose.
Ouais.
Il reste des boissons non alcoolisées, non gazeuses et plein de choses à manger, donc voilà.
あの日越えてきた大きな目を覚ます。
Non, s'il vous plaît, un petit peu de respect dans la conversation, on va éviter les éclats de voix, puisque si on a passé ce morceau, c'est pas un hasard.
Et c'est pas Noël pourtant.
Et oui, c'est vrai, mais c'est un sujet quand même que Thomas a esquivé depuis un certain temps, mais c'est comme c'est pas une émission comme d'habitude, il a quand même tenté de le faire.
Oui, voilà, donc.
Il est arrivé en disant, ouf, c'est un peu dur.
Ouais, mais toi, t'es spécialiste des nécros, toi. C'est quoi tu fais, toi? Moi, j'ai eu la déprime hier soir quand j'ai préparé la chronique.
Qui est mort?
Eh ben, il est mort depuis un mois, mais on va en parler aujourd'hui. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'était la BO de Paprika. La BO composée par Suzumo Hirasawa, et donc il s'agissait d'un film de Satoshi Kon qui nous a quitté le 24 août dernier d'un cancer du pancréas. Et justement, donc on va parler un petit peu de sa carrière. Donc Satoshi Kon, qu'il était né en octobre 63 à Hokkaido, et donc il est mort assez jeune, il est mort à 47 ans. Et j'ai lu sur le net pour préparer l'émission, il y avait un article qui résumait bien en fait dans son titre le bonhomme. C'était, ils avaient marqué décès d'un rêveur contagieux. Puisque c'était quelqu'un qui parlait justement de la frontière entre réalité et le rêve et les imbrications multiples. Et voilà, donc en fait, lui, il était assez insaisissable, ce type, parce que autant les gros mastodontes de l'animation japonaise, Otomo, Miyazaki et Oshii, tu pouvais bien les faire rentrer dans les cases. Donc Otomo, c'était celui qui était spécialiste des apocalypses, un peu, qui explosait de partout, avec la SF, du steampunk, voilà, ça se finissait toujours par un champignon. T'as Miyazaki, c'était le pape des fables écolo et des magiciens amnésiques. Bon, après, avec tous les films qu'il a sortis, tu pouvais un peu détacher ces deux thématiques et tout, même si c'est un peu plus riche, mais je schématise, j'aime bien caricaturer un petit peu. Et Mamoru Oshii, bon, c'était un peu les cyberpunk contemplatifs, avec des personnages qui regardent le ciel, avec des musiques.
C'est possible un bassé.
Voilà, toujours un bassé dedans, voilà. C'est film avec des bassés, voilà. Donc Oshii, c'était le film avec des bassés, merci. Et par contre, Satoshi Kon, c'était quelqu'un qui, quand tu réfléchis, il avait fait seulement 4 films, ce type. Et il avait, il parlait justement de distorsion de la réalité avec Paprika et Perfect Blue. Mais en fait, tu dis, donc on peut le faire entrer dans la case. Sauf qu'il a fait Tokyo Godfather. Et Tokyo Godfather, c'est totalement autre chose. C'est juste une comédie très chaleureuse avec 3 SDF. Qui adopte un petit bébé dans les rues de Tokyo pendant la période de Noël. Alors tu peux pas faire plus antinomique, t'as un film sur la distorsion de réalité et après t'as Tokyo Godfather d'un autre côté. Il a aussi fait Millennium Actress sur justement le cinéma en toile de fond, c'était une récurrence dans son cinéma. Il s'est aussi essayé à la série télé avec Paranoia Agent. Et donc voilà, donc Satoshi Kon, c'était quelqu'un qui commençait à être pas mal apprécié en Occident. Il avait commencé sa carrière en 87, il avait fini ses études et il s'était essayé au manga à la base. Il voulait faire du manga avec le manga Kaikisen, qui a été édité d'ailleurs dans la collection Saka chez Casterman chez nous. En 91, il travaille sur l'adaptation en manga du film World Apartment Horror, auquel il avait collaboré avec un certain Katsuhiro Otomo, qui était son mentor, qu'il avait pris comme assistant sur la bande dessinée, et qui ensuite va le former à l'animation. Il va lui apprendre les rudiments du métier. Donc en 91, il fait ses premiers pas dans l'animation avec Rujin Z, dont il fait les décors, justement formé par Otomo. Ensuite, à peu près la même année ou un an après, il enchaîne avec un autre ténor, avec Mamoru Oshii, où il collabore sur Patlabor 2. Donc ça va, il commence pas avec des brels. Et en 95-96, il revient au manga avec le manga Seraphim. Je crois qu'il a jamais été édité. Et c'est là qu'il dit, finalement, ce que je veux faire, c'est mettre en scène des animations. Alors en 95, Katsuhiro Otomo, il met en place le projet Omnibus. Donc c'est un film à sketch qui s'appelle Memories. Et donc justement sur le segment Magnetic Rose, il y a Satoshi Kon qui s'occupe des layouts, des décors et du scénario. Et donc même si ce segment-là est...
encore on parle de distorsion de réalité d'ailleurs.
Oui,
si je me souviens bien du film.
Oui, c'est dans l'espace des astronautes qui tombent sur le fantôme d'une chanteuse d'opéra qui leur fait revivre un petit peu certains moments de sa vie, notamment je crois un chagrin d'amour, mais il me semble que je l'ai pas vu. C'est ça. Et alors même si ce segment là est réalisé par Koji Morimoto, qui a aussi collaboré sur les Animatrix, c'est un type qui a aussi un imaginaire assez foisonnant, on voit quand même la patte de Satoshi Kon. Bon, la musique avait été faite par Yoko Kanno, il y avait quand même du casting derrière, attention. Ensuite, il enchaîne avec son premier long métrage d'animation Perfect Blue en 97. Alors à l'origine, il devait être uniquement destiné au marché de l'OAV, mais
donc c'est eu direct ou vidéo.
Voilà, direct ou vidéo. Il y a un énorme marché de l'OAV au Japon. Ici, c'est un peu assimilé à du direct ou DVD, direct ou vidéo. C'est un peu péjoratif, mais là-bas, il y a des gens OAV.
Oui, c'est un très 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 haut niveau. C'est des budgets qui sont largement supérieurs à des épisodes uniques de dessins animés en général.
Voilà, donc Perfect Blue, c'est le film qu'il a fait connaître en Occident. De façon, déjà, c'était dans son premier long métrage, donc premier coup d'essai, coup de maître. Il a travaillé à partir, il a remanié toute l'histoire à partir d'un roman de Yoshikazu Takeuchi. Et c'était le matériau de base était un roman, mais il a dit moi ça me satisfait pas, le script il est pas d'assez bonne qualité pour moi. Alors l'auteur lui a dit, les producteurs lui ont dit bon d'accord, t'as carte blanche, par contre tu respectes les trois thèmes principaux qui sont l'idol, l'horreur et le stalker. Donc le stalker, c'est le gars monomaniaque.
Le voyeur, celui qui court après, et l'idole, c'est quelque chose qu'on connaît très mal en France, mais dans la musique populaire japonaise est extrêmement répandu, ça représente 70% du marché là-bas.
Voilà,
la jeune fille entre 18 et 25 ans qui...
Ah, nous avons
la rue s'est barré quand il a vu le sujet.
Ah mince, on parle de Pop Idol, il est parti. Donc voilà. Donc Perfect Blue, c'est juste un film magistral sur les troubles d'identité d'une Pop Idol en fait, qui veut devenir actrice en quittant le groupe de Pop Idol auquel elle fait partie. Donc elles sont trois nanas et elle annonce sur scène je quitte le groupe et je vais faire ma carrière solo en tant qu'actrice. Sauf qu'il y a un stalker justement qui l'entend pas de cette oreille et qui va il a une tête assez bizarre, il va commencer à agir de façon un peu bizarre, il va être très obsessionnel, il va lui téléphoner et puis il va commencer à y avoir des meurtres. Sauf qu'au départ, tout semble accuser ce stalker. Mais après, on s'aperçoit que c'est peut-être pas lui. Et comme le film joue sur les troubles d'identité de l'héroïne, il se pourrait bien qu'elle soit impliquée plus ou moins malgré elle.
Sans compter le scénario de la série dans laquelle elle tourne, qui est une espèce de mélange malsain entre Twin Peaks et Seven.
Voilà, donc c'est exactement ça. En fait, c'est le film en fait fait des plein de mises en abîme où à un moment donné l'héroïne est complètement paniquée parce qu'elle est poursuivie par quelqu'un ou parce que elle va se déchaîner dans un orage de violence, elle va tuer quelqu'un. Sauf que c'est une fiction dans la fiction. Et alors tu sais pas trop si c'est dans son esprit, elle commence à s'emmêler les pinceaux, ce qui pourrait faire une bonne explication si c'est elle la coupable. Mais jusqu'à la fin, eh ben, le réalisateur entretient justement l'ambiguïté, tu sais toujours pas si c'est elle la meurtrière ou pas. C'est un film sur les troubles d'identité, c'est absolument magistral, qui perd absolument pas d'intérêt quand tu le vois plusieurs fois. Justement, il faut le voir plusieurs fois pour voir un petit peu tous les ressorts cachés, puisque finalement, quand tu finis de voir le film, tu dis... Finalement, bon, allez, c'est assez basique, c'est assez simple à comprendre. Et finalement, quand tu le revois une deuxième fois, il y a des petits, des faces immergées de l'iceberg. Tu vois qu'il y a quelque chose en dessous quand même. Sans compter que dans le film, c'est assez osé puisqu'il y a pas mal de scènes à la fois gore mais aussi sexuelles. Et t'as leur plantation de poils pubiens aussi dedans. Donc,
oh là,
oh là, voilà.
On est au Japon, théoriquement, c'est gommé.
Théoriquement. En 2002, donc 5 ans plus tard quand même, il enchaîne avec Millennium Actress, donc dont on parlait tout à l'heure, mais un film que je n'ai pas vu, donc je pourrais pas trop en parler en long et en large. Le pitch, c'est la vie d'une grande actrice de cinéma qui ayant mystérieusement arrêté sa carrière, on sait pas pourquoi, alors qu'elle était à son apogée. Et justement, à l'instar de Perfect Blue, on voit des scènes de cinéma qui s'entrecroisent avec des événements qui ont réellement influencé sa vie. Donc voilà, c'est une déclaration d'amour encore une fois au cinéma. L'année d'après, il enchaîne avec Tokyo Godfather, donc je parlais tout à l'heure. On pourrait penser que c'est
un gros moment d'explosion de couleurs et d'humour improbable.
Oui, voilà, tout le monde l'a comparé à du Chaplin ou à du Frank Capra. En fait, c'est très humaniste. C'est une fresque avec, une fresque. C'est un petit film de 90 minutes sur 3 SDF, justement à peine de Noël, un alcoolo, une jeune fille qui a fugué et un gars qui est un peu travesti, qui est plutôt l'aspect maternel, on va dire. Des 3 SDF qui tombent sur un bébé et qui vont entreprendre pendant la période de Noël de lui faire retrouver ses parents. Alors évidemment, il y a plein d'histoires, il arrive plein de trucs dans la tête, vu aussi que ce sont des SDF, alors ils ont aussi leur propre histoire personnelle à régler. Bon voilà, c'est super chaleureux, c'est pas le déferlement de mise en abîme de trucs un peu tarabiscotés et très malsains dans ces deux précédents films. Là, il change totalement. Et paradoxalement, quand on dans ces interviews, Satoshi Kon dit qu'il ne le considère absolument pas à part dans sa filmographie. Il considère que ça répond quand même encore et toujours à un cycle sur la frontière entre vie fantasmée, vie réelle, etc. En 2004, il s'essaie donc à la série Paranoia Agent, qui est une série de 13 épisodes que je n'ai pas vu, donc peut-être que je vous la chroniquerai quand je l'aurai vu. J'ai remis la main sur les DVD que j'ai chez moi. Ah, voilà. 2004, donc Paranoia Agent, et 2006, Paprika. Donc d'après le roman de Yasutaka Tsutsui, et donc c'est une adaptation qu'il souhaitait faire à l'époque, juste après Perfect Blue, et le financement en fait a capoté, et donc il a fait d'autres films, et c'est l'auteur du roman lui-même qui, en voyant Millennium Actress, il dit « Toi, c'est toi qu'il faut pour l'adaptation de mon roman, donc c'est toi que je veux », et finalement ça tombe bien puisqu'il voulait l'adapter. Donc Paprika, c'est alors pour préparer c'est marrant la chronique, j'avais pas du tout fait attention parce qu'entre temps est sorti Inception, et c'est vrai que il y a des similitudes, puisque Paprika, ça raconte justement une technologie qui permet d'aller dans les rêves des gens pour un peu les hanter, et justement l'héroïne, donc c'est Paprika, c'est son alter ego, et c'est une chercheuse qui est un peu propre sur elle, un peu froide, et qui va aller dans les rêves des gens pour essayer soit de les sauver, soit de les attaquer parce que ce sont des criminels. Alors voilà, je vous mettrai les liens dans les chroniques, mais c'est vrai je suis tombé sur un montage où un gars qui est passionné de Paprika a monté la bande Inception derrière. Et il a justement fait concorder certaines répliques que disent les vrais acteurs d'Inception avec des moments où les personnages parlent dans Paprika, et c'est très efficace. Vous verrez, il y a pas mal de similitudes entre les films. Donc voilà, Paprika, c'était son dernier film qu'on a pu voir sur nos écrans en 2006.
Dernier film sorti, puisqu'il était
Il était en train de préparer donc un film qui devait sortir l'année prochaine en 2011, qui s'appelait Dream Machine, et qui était a priori plus orienté vers un jeune public. Il pourrait s'agir d'un road movie avec des robots, il n'y aurait aucun personnage humain dans le film, et il estimait, justement après Paprika, avoir fait le tour de son cycle sur l'imbrication entre réel et imaginaire, et là il devait commencer des films totalement différents des premiers films qu'il avait sortis. Donc c'est dommage, la production donc du coup était un peu au point mort. Pourquoi je vais parler un peu des circonstances de sa disparition après. Les influences de Satoshi Kon. Son mentor, bon, c'était Katsuhiro Otomo. Il avait été fortement influencé par Akira et surtout par Domu. C'était le manga qui avait fait connaître Otomo. C'était, il me semble,
Histoire d'enfant en français, qui a été publié 4 ans auparavant, avant qu'il se lance dans Akira.
Voilà. Et Otomo est considéré comme l'un des mangas les plus novateurs, car il me semble que c'est la première fois qu'un manga avec des héros japonais présentait les héros avec des yeux bridés et pas du tout avec des grands yeux hérités de l'influence des Zuka. Mais ça, c'est à vérifier. Il me semblait avoir vu ça.
Non, je crois qu'il y en a qui l'ont fait avant, et notamment on pense à l'auteur de Lady Snowblood, qui l'avait fait avant.
D'accord, bon, ok, bon, ça, c'est à vérifier. Il avait été influencé également par toute la filmographie de Terry Gilliam, et notamment Brasil. La Cité des Enfants Perdus, c'est l'une des rares influences cinéma qu'on peut trouver du côté de l'Europe, le film de Caro et Jeunet. Du côté des animations, donc, il avait été fortement influencé quand il était encore étudiant par les films Yamato, Conan le Fils du Futur, Galaxy Express 999 et Mobile Suit Gundam. Et en littérature, c'est évidemment Philip K. Dick. Bon, évidemment, c'est pas très surprenant quand on connaît un peu la filmo de Satoshi Kon. Voilà, je pense que je chroniquerai à l'occasion justement la série Paranoia Agent et quelques films de Satoshi Kon à l'occasion dans cette émission. C'est quelqu'un qui aimait bien s'entourer de la même équipe à chaque fois, comme la plupart des grands réalisateurs, donc Nobutaka Ike au décor, Masafumi Mima au son, et donc on en parlait tout à l'heure, Suzumu Hirasawa à la musique. Et donc la circonstance de sa mort, donc en mai dernier, on lui diagnostique un cancer du pancréas. Et on lui annonce qu'il a plus que 6 mois maximum à vivre, et donc il commence à se préparer à sa disparition. Et
d'ailleurs, il raconte cette journée où on lui fait son annonce. Il a raconté sur son blog, billet qui est sorti juste après sa mort.
Voilà, c'est un billet qu'il avait
écrit, qui est vraiment prenant.
Voilà, qui a été mis à disposition sur internet selon ses volontés le lendemain de sa mort. Et il raconte un peu les circonstances, comment il a appris cette nouvelle, comment il a essayé d'annoncer cette nouvelle à plein de gens de sa famille par la suite, parce qu'en plus c'est timidement japonais, donc c'est très humble en fait le mot qu'il a laissé, puisque il dit j'ai été irresponsable, pardon à tous les gens à qui j'ai caché ma maladie. À un moment donné, il a une alerte, donc il pense qu'il va mourir à l'hôpital, donc il essaie de convaincre tout le monde qu'il veut mourir chez lui, donc évidemment fausse alerte, mais c'est que plusieurs jours après qu'il va vraiment décéder. Et donc là il prend conscience que c'est vraiment une urgence d'annoncer ça à ses parents, de se confronter une dernière fois à ses géniteurs. Et donc il raconte
tout
ça dans un
continuant texte. La production qui en fait a une date butoir. Ouais. Donc il faut presser la production du film.
Oui, en même temps, c'était le film devait sortir qu'en 2011, donc il y avait encore pas mal de boulot. Il s'est excusé auprès du patron du studio Madhouse qui avait produit la plupart de ses films, en disant excusez-moi, je peux pas continuer. Parce qu'en plus, il avait une manière de travailler qui était assez particulière, puisque c'est lui qui prenait en charge l'intégralité du storyboard, ce qui fait que si lui disparaît, il y a pas mal d'indications qu'il avait mis qui ne pouvaient être lues que par lui. Donc ça handicape un petit peu le film. Voilà, donc il a dans ce long message, il explique qu'il s'en veut, qu'il a pas, excusez-moi pour mon irresponsabilité, j'ai pas mis au courant certaines personnes qu'il fallait, j'ai pas été un ami suffisamment fiable, etc. Donc il s'excuse pour tout, c'est typiquement japonais. Donc il décède le 24 août. Il a monté une structure qui s'appelle Constone. Je crois qui est chargé de récupérer tous les droits dont il pouvait bénéficier pour que sa femme en hérite et tout. Et puis je crois que c'est une sorte de fondation. Il avait aussi collaboré à un collectif pour justement lutter contre la situation précaire de certains animateurs dans l'industrie du film d'animation. Donc voilà, Satoshi Kon, il est mort à 47 ans. C'était quelqu'un qui avait fait seulement 4 films et une série télé. Enfin, il avait collaboré à d'autres projets avant, et c'est vrai que c'était.
Il est unanimement cité par tous les studios de production. Je crois que même Ghibli faisait référence à lui. Donc, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il a fait une œuvre relativement courte, mais qui a vraiment marqué cette industrie-là.
Voilà, c'est assez surprenant dans l'univers du film d'animation. C'était une œuvre qui est très 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 ancrée dans le réel quand même. Donc voilà, c'était même s'il parlait d'imbrication de virtualité de réel, c'est quelque chose à la base qui avait vraiment une emprise dans le monde réel, avec des vraies voitures, des vrais gens, des vrais costumes, etc. C'était pas du tout un univers fantasmé. C'est ça aussi qui faisait le sel de son cinéma. Donc Satoshi Kon disparu en août il y a un mois, donc en août 2010, et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carrière de Satoshi Kon.
Je suppose de toute façon que Thomas va être obligé de mettre sa, parce que c'était quand même prévu depuis un bail, de mettre la chronique sur son site avec les liens qu'il faut.
Promis, je rattrape mon retard sur tous les œuvres de Monsieur Satoshi Kon donc que je n'ai pas vu. Je rattraperai le retard, je chroniquerai tout ça. Je vous le promets, auditeur.
Du sport.
Oui.
Tiens, la zapette magique.
La zapette. T'as le générique là ou je démarre direct?
Direct.
Bon, on va faire plus court parce que bon, ouais,
il y a le sport après.
Hein. Ouais, avec une série donc, mais c'est la seule. Il y a deux inédites, dont une qui est un petit peu passable en plus diffusée sur Série Club en version française. Donc on va laisser un peu pisser hein, encore une histoire de FBI. Hein, ça suffit. Il y en a marre. Bien que ce soit un sujet qui n'ait pas souvent été traité du côté du FBI, puisqu'il s'agit de la criminalité en col blanc. Ah ouais, avec Madoff et toutes les histoires en ce moment.
Cette saison,
il n'y a pas de problème. Mais par contre, la vraie nouveauté, et là, ça a fait un peu le buzz, d'ailleurs, à l'occasion des 62e Emmy Awards, car c'est une série qu'on n'attendait pas et qui a raflé plusieurs Emmy comme ça, quoi.
Mad Men ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ben justement, ouais, Sortie Rock, un petit peu en perte de vitesse et tout. On attendait la nouvelle série, la Glee, là, truc de comédie musicale qui marche très très fort, qui a un super buzz et tout, mais qui est pas mal plus, hein, qui est diffusé sur Orange en ce moment. Et Glee s'est fait griller la politesse, pour parler poliment, par Modern Family, émis de la meilleure série comique. Alors, cette Modern Family, en fait, ça raconte le quotidien de trois familles, dont la famille principale, les Pritchett, interprété par le père Jay, interprété par Ed O'Neill, qui avait déjà fait une série fabuleuse à propos de la famille, mariée deux enfants, hein, Married with Children, et sa femme Sofia Vergara, deuxième femme d'ailleurs, et chez les Pritchett, on a également le plus jeune fils, le fils qui est un fils obèse et puis qui est obsédé par les gonzesses. On a une deuxième famille qui s'appelle les Dunphy, dont l'un des membres majeurs, c'est la fille de Jay Pritchett, donc de Ed O'Neill, qui est mariée avec Ty Burrell et qui ont trois enfants, deux filles et un garçon. L'aînée, elle fait sa crise d'ado. La deuxième, elle est un petit peu plus jeune, vachement intelligente, vachement tip-top et tout quoi, mais elle est quand même mal dans sa peau. Et Luc, le petit dernier là, qui est vraiment un confini quoi. Et la troisième famille, qui en fait est une famille pas tout à fait normale et qui détonne un petit peu dans le paysage audiovisuel américain, parce que c'est une famille de gays, c'est un couple homo, avec également un des fils de Jay, Ed O'Neill, donc Cameron, et son partenaire Mitchell, donc, et au début de l'histoire, il décide d'adopter un petit bébé vietnamien. Saisissez-le un petit peu le truc. Et pour le rôle de Cameron, d'ailleurs, l'acteur Eric Stone Street a également eu l'Emmy lors des 62e Emmy, l'Emmy du meilleur second rôle dans une série comique. Et ça va être diffusé donc à partir de lundi prochain 20h35 sur Paris Première. Alors c'est le format sitcom, c'est-à-dire des épisodes de 25 minutes, et là, bah, il y en a 5 qui sont programmés, donc c'est nickel, il n'y a pas de problème. Surtout, Il y a Ed O'Neill, donc ça peut pas se manquer. Ça, y a pas de problème. Hein. Il est tellement bon, Marie des enfants. J'ai pas cité Dragnet. C'est Ed O'Neill. Hein. Donc Modern Family, donc c'est sur Paris Première à partir de lundi 20h35. Les 5 premiers épisodes, dont le pilote. Un petit documentaire et qui est d'actualité, on va dire. C'est sur Arte à partir de lundi prochain, quotidiennement jusqu'au vendredi prochain. Il y a 5 épisodes. C'est dans la case documentaire de début de soirée, 19h55 jusqu'à 20h20. Et ça s'appelle Sur les traces de Tintin. Ouais, produit par Moulinsart, ouais. Machin truc. C'est-à-dire la boîte officielle et tout. Et donc c'est un documentaire inédit en 5 parties sur toute la vie de Tintin. Et j'ai appris peut-être je me souvenais pas, hein, quel est le prénom du capitaine Haddock. Allez,
Hippolyte, Tic-Tac,
Sagamore,
John,
Séraphin.
Non, Séraphin, c'est l'assureur.
Hippolyte.
Balthazar, et puis j'ai oublié l'autre.
Ah, Balthazar,
Archibald.
Ah, voilà la bonne réponse. Ouais. Archibald, bien joué. Bravo.
En deuxième semaine.
Sur les traces de Tintin sur Arte, c'est à partir de lundi prochain, tous les jours jusqu'au vendredi à 19h55. À présent, quelques films à la télé, pas grand chose, hein. J'ai un petit peu remodelé le truc et tout, mais des films un peu plus fouillés. Ce soir sur RTL9. Comme d'habitude, un western, Les deux cavaliers de John Ford en 61. Two Roads Together, c'est le titre original. John Ford qui la même année fait L'homme qui a tué Liberty Valance. Tu te rends compte, 2 pour le prix d'un la même année et tout. Et puis 2 bons westerns. Celui-là avec Richard Widmark, James Stewart, Shirley Jones. Alors Richard Widmark, il a une carrière assez remarquable parce qu'il c'est pas le jeune mec qui au départ se dit ouais moi je vais foncer à Hollywood, je veux devenir acteur et tout, j'ai flashé et tout. Non, il fait ses études et tout, il va à l'université, il est licencié en sciences politiques. Ensuite il passe au professorat, il devient prof de sciences politiques à New York et commence sa carrière cinématographique en 47 par un chef-d'œuvre, Kiss of Death de Henry Hathaway, Carrefour pour la mort, où il joue le rôle de ce tueur sadique qui pousse la mémé dans l'escalier. Ça, c'est une scène mémorable à la fin et tout, quoi, avec ce rire sardonique. C'est un des chefs-d'œuvre du polar américain des années 40, Kiss of Death, donc, avec Richard Widmark, qui commence très fort, énormément fort. Ensuite, on le voit en 48 dans Cry of the City de Siodmak, dans Night and the City, Les Formants de la Nuit de Jules Dassin, ça c'est en 50, dans Le Port de la Drogue de Samuel Fuller en 53, on le voit dans La Lance Brisée, ça c'est un western de Edward Mitrick en 54, dans Warlock, L'Homme au Colt d'Or, d'Edward Mitrick en 59, dans le film Alamo bien sûr, où c'est le pote de John Wayne, le film réalisé par John Wayne. Il joue également d'autres rôles, style Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer. On le retrouve également chez John Ford dans Les Cheyennes, et plus tard dans sa carrière, il joue également dans Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet. Et il a également fait de la télé, bien sûr. C'est lui, Madigan, dans la série Madigan. Rappelez-vous. Tout ça, donc, pour vous parler de cet immense acteur Richard Widmark, qui donc est à l'affiche ce soir sur RTL9 à 20h35 dans Les Deux Cavaliers de John Ford. Demain, autre western pas mal, on va dire, sur Direct 8 à 20h40, c'est le Joe Kidd de John Sturges en 72 avec Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Stella Garcia et Don Stroud. Don Stroud, vous le connaissez certainement. Pourquoi ? Parce que vous avez vu la série Mike Hammer avec Stacy Keach, et Don Stroud joue le rôle du capitaine Pat Chambers, celui, le flic chez qui Mike Hammer va toujours pour demander des conseils, pour se faire filer un petit coup de main et tout, quoi. Et bon, c'est donc Don Stroud, il a quand même une vie assez remarquable. Il est né à Honolulu sur l'île de Hawaï en 1943, et c'est le fils de l'immense acteur de vaudeville Clarence Stroud, début du siècle dernier, bien entendu. Alors il est découvert au cinéma en 59, hein, par un type qui tournait un film de surf du côté d'Hawaï, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'était un surfeur confirmé. Il a fini quatrième meilleur surfeur mondial au championnat du monde en 59. Il est également ceinture noire de karaté. Et de ce coup, il part à Hollywood dans les années 60, début des 60, il commence à faire des petits boulots, genre gardien de parking, puis il devient videur de boîte, puis il devient manager du Whisky à Gogo, la boîte célèbre sur le Sunset Strip de Hollywood où qui a vu passer Janis Joplin, Jim Morrison et tous ces gens-là et plein d'autres de par le passé, hein, Guns N' Roses qui sont aussi passés par là-bas, enfin bon, plein. Et c'est au Whisky à Gogo qu'il est repéré par Sidney Poitier et il commence sa carrière à la fin des années 60, début des années 70. Il tourne dans plus de 100 films, dont Amityville, dont Buddy Holly Story, c'est lui le batteur du Buddy Holly, et joue vraiment de la batterie dans ce film. Il joue également, on en avait parlé la semaine dernière, dans la première version de The Killer Inside Me, rappelez-vous, qui est resté inédit en France, où il joue le rôle de Elmer Conway, donc c'est le mec qui se fait buter au début du film en fait quoi. Et dans les séries, alors là on l'a vu dans pratiquement toutes les séries américaines que vous pouvez imaginer: Pensacola, Nash Bridges, Babylon 5, Walker, Texas Rangers, Briscoe County, Murder She Wrote, Arabesque en français, Dr. Quinn, Baywatch, Alerte à Malibu en français, Quantum Leap, Code Quantum en français, Dragnet 90, Chips, avec les motos là, ouais. Colombo, dans Madame Colombo, et c'est lui qui joue le rôle de sergent, donc rôle récurrent auprès de Madame Colombo. Et alors là, je suis remonté jusqu'à la fin des années 70, parce que ça continue encore vraiment très très loin. On le voit même dans Madigan d'ailleurs, hein, Don Stroud, quoi. Donc il se connaissait déjà. Don Stroud, donc c'est dans Joe Kidd de John Sturges en 72, et c'est demain soir sur Direct 8 à partir de 20h40. Ensuite, lundi, ouais, un petit film qui est sympa sur Arte à 20h45, c'est L'année du chat, finalement, avec Guts George, inspecteur Horst Chimansky, et qui a quand même eu le grand prix du festival de Cognac. Hein. C'est un bon petit polar, hein, vraiment sympa, c'est réjouissant que Arte nous rediffuse ce petit polar. Mardi, il y a pas grand chose. Mercredi, il y a des super navets avec, par exemple, sur NT1, Shark Attack.
Yeah.
Spring Break, c'est pas le même Shark Attack. Non, ouais. C'est Spring Break avec Kathy Baker, c'est la seule actrice connue d'ailleurs. Il y a aussi Riley Smith, Shannon Leo, enfin bon, sur Energy 12, mercredi, il y a Marines à 20h35 avec Mark Roper, où t'as carrément les Marines américains qui sont obligés d'aller en Tchétchénie pour débusquer un terroriste parce que les Russes, ils arrivent pas tout seuls. Si, c'est vrai. Et sur TF6, un de mes films préférés, La Mutante 4, avec Helena Mattson. Et quand on voit Helena Mattson, ça vaut le coup d'œil, les gars. Et on se demande ce que Ben Cross est bien allé foutre dans une merde pareille. Mais heureusement qu'il y a Helena Mattson.
Payé, ouais,
vous voyez ce que je veux dire?
Mais il n'y a plus d'Attaché en Street.
Ok. Bon, jeudi, il y a du lourd avec, sur Direct 8, Commando de Mark Lester, hein, le Schwarzy, bien sûr. 13ème rue vous propose Haute Sécurité avec Sly de John Flynn. Avec surtout la performance de Donald Sutherland en directeur de prison, vraiment dégueulasse. Il en fait baver à Sly comme c'est pas permis et tout, c'est génial, c'est
hein,
c'est
il s'est retrouvé en punching ball lui.
Ouais. On termine avec Le Vendredi qui est complètement asiatique, deux films quand même. Le film de la seconde partie de soirée sur RTL9 à 22h25, c'est du japonais, ça date de 2001, c'est de Hiroyuki Nakano, Red Shadow, et tu en connais quelque chose puisque c'est tiré c'est ici d'un manga. Ça s'appelle Red Shadow, hein, c'est ce que j'ai lu.
Mais ouais. Ça il y a un bail, hein.
Ouais, ça y a un bail, bah ok, d'accord. Avec Kumiko Asso, Meguni Okina et Naoto Takenaka. J'ai tout dit, tout bon, tu vois.
Bravo.
Et on termine avec un film que tu as programmé il y a quelques temps de ça quand même, mais qui a un bon Johnito, Breaking News, avec Kelly Chen, Nick Chung et tous les autres. Bon, c'est sur TF6 vendredi prochain à 23h10.
Très bon scène d'intro tiré de plan séquence, genre la corde ou Snake Eyes.
Ou la soif du mal aussi.
Ouais, la soif.
On va citer tous les plans séquences de plus de 2 minutes là, parce qu'on n'a pas fini.
Ah non, c'est pas bon. Plus de 2 minutes, c'est plus de 15 minutes.
Ouais. Sauf Snake Eyes, parce que Snake Eyes, à vrai dire,
c'est un fake.
Il y a 3 records.
Salaud, Brian De Palma.
3 records.
Ouais.
Mais
je crois que la corde. Il n'est pas arrivé à copier Orson.
La corde aussi, quand même, des records. Mais c'est quand même bien réussi, ton sens.
13h30, Thomas, tu peux faire le résumé là,
oula, oui, attends, je viens de le finir. Donc nous avions cette émission numéro 250, c'est une émission pas comme d'habitude, avec l'interview de Claude Godard, et c'était pas comme d'habitude, JB a chroniqué une BD, et c'était Black Sad, et on a eu la nécrologie de Satoshi Kon, et un programme télé plus que raccourci avec Sly qui dégomme du Donald Sutherland, c'est trop bon.
Voilà, et retrouvez-nous sur le Twitter officiel Direct Star FR.
Oh, pitié. Il y a Morandini qui vient dire bonjour, quoi. Nom d'un 250e épisode, je ne dirai pas ce que t'as marqué. Ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. C'était lui ce qui avait marqué. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, hein, n'hésitez pas. Pour cela, hein, il suffit d'aller sur le site web, comment il s'appelle ?
www.suppléments-weekend non, c'était quoi ?
suppléments-weekend.fr
sans le www devant, mais vous avez tout à fait le droit aussi, c'est vous qui voyez. Voilà. Vous écoutez FMR sur
89.1 MHz.
Voilà, nous sommes en direct en alternance avec
Booster FM.
Ouais, et on continue sur www.radio-fmr.net. Voilà, vous savez tout. Messieurs, dames, on vous dit.
Ça va les voix vaginales de NRJ là ?
Voilà, maintenant on va parler de pétrolette.
Thomas, tu vas te prendre une mandale du monsieur qui est derrière là.
Sur ce, je me barre sur Phil quand même.
Ouais, mais sur FIP, il passe des disques, on est trop jeune.
Oh, c'est trop bon. Ouais, c'est clair. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Ouais.
Ils s'en foutent.
Non, ils crachent une olive, c'est plus drôle.
Moi, je serai pas là samedi prochain.
Je sais pas, alors on va y réfléchir.
Ok.